Est-ce que vous pourriez bien nous rappeler quelles sont les conséquences et les implications à la fois pour l'employeur et pour l'assuré de la qualification d'une pathologie en maladie professionnelle ?
Les conséquences
financières notamment.
Les conséquences financières, ben aujourd'hui, les conséquences financières sont assez limitées pour l'employeur. C'est-à-dire, c'est en gros un pourcentage de l'ordre de 2 à 3% suivant les branches professionnelles, d'une cotisation sociale. La spécificité de la branche AT-MP, c'est que c'est le principe de 1898, c'est de dire les profits générés par l'activité économique vont aux employeurs. Donc c'est à eux d'assumer le risque lié à cette activité économique. Donc, c'est des cotisations qui sont exclusivement liées aux employeurs. C'est-à-dire que, contrairement à la branche générale, il n'y a pas de cotisation salariée sur le risque AT-MP. Donc, pour l'employeur, c'est simplement une cotisation. Alors, qui, suivant les entreprises...
Le fait qu'un salarié particulier soit reconnu comme...
C'est la sécurité sociale. C'est la sécurité sociale qui va prendre en charge le traitement qui est lié à la maladie et qui va donner une IPP, une indemnisation liée à au type de handicap lié à la maladie professionnelle, donc qui va indemniser la personne. Et si on reste dans le domaine de la reconnaissance de maladie professionnelle, il n'y a pas d'impact sur l'employeur. Il y a un impact sur l'employeur en cas, peut-être certains ont suivi, en cas de faute inexcusable de l'employeur. C'est-à-dire si on arrive à démontrer que l'employeur n'a pas respecté l'ensemble de la législation en matière de protection des travailleurs, etc. Donc si on arrive à mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, normalement, c'est souvent plus compliqué que ça, la caisse de sécurité sociale peut se retourner contre l'employeur. L'employeur qui a quand même le droit depuis les années 80 de s'assurer contre ce risque d'augmentation justement d'augmentation de son pourcentage de cotisation par la branche AT-MP, par l'assurance maladie. Donc je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça tient, c'est que c'est quelque chose qui est... Enfin, à la fois, le problème est devenu essentiellement perçu comme un problème d'ordre financier, c'est-à-dire c'est vraiment un problème de X% de cotisation qui est payée par l'employeur. Donc on n'est plus dans un problème de... Je parlais de construction des problèmes publics, mais on n'est plus dans un problème de santé publique, mais on est dans un problème simplement financier de niveau de cotisation. Et c'est des niveaux de cotisation alors qui, pour les grandes entreprises de plus de 500 salariés, sont individualisés, mais souvent sont générés par branche. C'est-à-dire que la branche du BTP a un taux de cotisation un peu plus élevé que les branches d'administration, etc., parce que le risque est plus important. Donc voilà, il y a des taux de cotisation qui sont indexés au niveau de risque, soit pour chaque entreprise, pour les très grosses entreprises, soit par branche pour essayer de différencier un peu les niveaux de cotisation.
Mais à titre de salarié,
pour le salarié, il est pris en charge intégralement, par exemple, à 100% pour le traitement médical, c'est-à-dire la sécurité sociale va prendre en charge complètement le traitement, et après, les indemnisations vont être liées... Le modèle, c'est vraiment d'indemniser la perte de revenus liée au handicap généré par la maladie. Donc c'est une indemnisation qui est forfaitaire. C'est-à-dire, contrairement à l'indemnisation de droit civil telle qu'elle existait justement avant cette loi, où on avait une indemnisation intégrale de la pathologie professionnelle, là on est dans le cadre d'une indemnisation forfaitaire qui est limitée à la perte de revenus liée à la perte d'une main, au handicap respiratoire qui est généré par la maladie, etc.
Qu'il y ait reconnaissance comme maladie professionnelle
ou pas? Ah non, il faut qu'il y ait reconnaissance. C'est une fois qu'il faut déposer, il faut faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui repose. Alors, contrairement à l'accident du travail, c'est l'employeur qui doit déclarer. Quand vous avez un accident dans une entreprise, l'employeur doit déclarer l'accident du travail. Pour la maladie professionnelle, c'est à l'initiative de l'employé. C'est-à-dire que c'est le travailleur qui doit aller voir un médecin, soit le médecin du travail, soit un généraliste, mais les généralistes sont souvent très peu sensibilisés à ces questions-là, pour avoir ce qu'on appelle un certificat initial, donc où le médecin va dire « cette maladie est a priori liée à l'amiante ou à l'exposition à tel cancérogène ou tel produit toxique ». Et après, avec ce certificat, il faut lancer une demande de reconnaissance en maladie professionnelle à la branche AT-MP, au CARSAT aujourd'hui, l'assurance maladie, à la sécurité sociale. Et ce que montrent les travaux sur la sécurité sociale, c'est que autant on a une reconnaissance assez facile des accidents du travail, autant les reconnaissances en maladie professionnelle sont l'objet d'une contestation quasiment systématique de la part des caisses d'assurance maladie.
Oui, donc moi je suis de la mutualité sociale à l'école, vous avez parlé que des tableaux du régime général. Oui, ouais. Donc pour dire que quand même, il y a eu en agriculture deux nouveaux tableaux entre 93 et 95, maladie Parkinson et la poste, il y avait quand même des évolutions. Oui. Le deuxième point, pourquoi il n'y a pas de travaux majeurs, c'est qu'il y a 93% de TMS en maladie professionnelle aujourd'hui. Donc quand vous dites cancer, lymphome, etc., c'est vrai que ça devient une vraie problématique. Mais aujourd'hui, les reconnaissances de maladies professionnelles, c'est 92 à 93% des troubles musculo-squelettiques.
Mais oui, mais 93%, c'est ce que vous dites. Oui, parce qu'il y a la question, c'est les 7%.
Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, comment dire, le gros aujourd'hui de la reconnaissance, c'est les TMS. Voilà. Donc c'est purement un constat.
Oui, dans l'indemnisation, dans ce qu'on indemnise. Aujourd'hui, on indemnise quasiment exclusivement les TMS.
C'est ça. Tout à fait. Le troisième point, c'est il y a les tableaux. Et quand il n'y a pas de reconnaissance dans les tableaux, il y a le comité. Alors, la reconnaissance des maladies professionnelles, ce qui permet d'ouvrir quand même la reconnaissance quand on n'est pas dans les tableaux. Ça aussi, ça peut discuter sur les modalités, parce que c'est aussi un des moyens, puisqu'aujourd'hui il y a un débat sur un fonds d'indemnisation pour le risque chimique, les produits phytopharmaceutiques. Donc c'est aussi un débat sur est-ce qu'il faut maintenir dans les tableaux, est-ce qu'il faut ouvrir encore plus de ces deux RMP qui pourraient compenser une indemnisation globale. Et le troisième point, c'est aujourd'hui, pour parler du débat public, il y a une vraie ouverture du débat public, parce que là on est concerné en première par une mutualité sociale agricole dans le domaine agricole avec les produits phytopharmaceutiques, et tous les jours, il y a bien l'ouverture des débats publics, parce que tous les jours il y a une confrontation, il y a une mission sénatoriale, il y a une proposition de création d'un fonds d'indemnisation sur le risque phytopharmaceutique, la ministre est contre, donc il y a un débat en cours et qui peut-être ouvrir le débat comme ça a été le cas dans le cadre de l'amiante. Mais aujourd'hui la difficulté sur le risque chimique, c'est qu'il y a 100 000 produits chimiques, donc produits phytopharmaceutiques il y en a beaucoup moins, mais comment on va indemniser? Et puis derrière, quelle supportabilité pour la société? Parce que quand on dit là, il y a les travailleurs, mais aujourd'hui la réparation intégrale, c'est également tous ceux qui habitent autour des champs qui revendiquent une indemnisation. Donc comment gère-t-on ça? Voilà, ça c'est le dernier point, et c'est tout.
Je réponds tout de suite sur les C2 RMP, là, les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. En effet, depuis 1993, il y a eu, suite à une réglementation européenne, on a intégré en droit français, justement, il y avait une demande de l'Europe pour les maladies hors tableau, ou alors les maladies où vous ne correspondez pas à toutes les lignes du tableau, vous avez un comité régional. Vous avez un comité régional qui permet justement une reconnaissance au cas par cas. Mais globalement, c'est des noms. Enfin, pour avoir un ordre de grandeur, donc c'est 50 000 maladies professionnelles qui sont reconnues par an, et c'est moins de 10% qui sont reconnues par les C2RMP. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les derniers chiffres que j'ai vus là, qui correspondent aux chiffres de ces dernières années très récentes, en fait, c'est devenu le seul point d'accès pour faire reconnaître les risques de dépression, etc.
Oui, psychosociaux.
Voilà, les risques psychosociaux. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas un endroit où on connaît les cancers et les autres.
Oui, le problème, c'est que là aussi, c'est des consignes qu'on peut donner. Je suis médecin national pour le médecin conseil, donc c'est les consignes qu'on peut donner au médecin conseil d'être dans la détection. D'accord, et ne pas hésiter, effectivement, quand on fait un lien potentiel entre quelqu'un qui est agriculteur et autre, et pour lesquels on découvre une maladie qui n'est pas dans notre tableau, c'est de les inciter, c'est dans les directives qu'on donne en ce moment, justement, à être en vigilance et à pousser à porter en ces deux.
Mais sur les cancers, par exemple.
Excusez-nous, c'est un peu technique.
Je voulais revenir sur la question quand même, ouais. Le risque phytosanitaire, ouais. La mise en place du tableau Parkinson, etc. On est aussi, même chose, dans un secteur où il y a des mobilisations quand même, dans le monde agricole, etc. Donc on voit bien que l'amiante, s'il est bien reconnu aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des fortes mobilisations dans les années 90. Aujourd'hui, ces nouveaux tableaux qui apparaissent à la MSA, qui sont négociés, correspondent aussi à une forte mobilisation de certains agriculteurs, etc. Donc on voit bien qu'on n'est quand même pas dans une réforme qui permette une réparation systématique des maladies professionnelles, mais on est plutôt à une réponse au cas par cas.
Mais aujourd'hui, il y a vraiment une pression de l'opinion publique, et je crois que ça va faire évoluer les choses. Et vous le disiez, la position au niveau du ministère pour créer des tableaux. Effectivement, dans le domaine agricole, la COSMAP, elle ne s'est pas réunie depuis plusieurs années. Donc ça va faire avancer.
Alors la même chose. Oui et non. Moi, c'est vrai que le truc, c'est que ça fait quand même mon vie. Hein. Ça fait longtemps que je travaille sur cette question. Et c'est vrai que moi, quand j'ai travaillé sur la crise de la viande, je me suis dit, en effet, toutes les mobilisations autour de la viande vont avoir un effet porteur sur l'ensemble des cancers. Ça paraissait aller de soi. Il y avait une telle mise en cause du dispositif. Et quand on regarde. On a réussi à mettre l'amiante comme un cancérogène très spécifique, mais 300 cancers d'origine professionnelle par an reconnus, on est, dans certains cas, quand on voit ponctuellement sur la vessie, sur certains lymphomes, etc., on est sur des facteurs de 1 à 10, de 1 à 100 par rapport aux chiffres donnés par les épidémiologistes. Donc, l'affirmation comme quoi les mobilisations dans un secteur vont avoir un effet d'entraînement, je le pensais au départ, et en fait, je me rends compte que non.
D'accord.
Mais, après, j'espère que je serai détrompé par les faits, mais jusqu'à présent, on a un tel équilibre de rapport de force que jusqu'à présent, on arrive à contenir les problèmes. Et quand l'amiante a failli emporter le système d'indemnisation des maladies professionnelles, on a créé le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui a été abondé par l'État, etc., pour pas que, en effet, les équilibres financiers de la branche AT-MP explosent. Parce que, juste entre parenthèses, la branche AT-MP est la seule branche régulièrement excédentaire de l'assurance maladie.
C'est
plus
que ça.
Merci. Oui, ça marche. Bonjour, on a fait connaissance tout à l'heure, donc je vais me représenter. Mais juste, je vous propose de quitter le monde de la maladie professionnelle pour faire un parallèle sur... Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur la manière dont on fabrique, de manière volontaire, l'ignorance. Je pense qu'on le retrouve vraiment dans des tas de domaines. Alors, juste une illustration sur quelque chose qui n'a rien à voir, et puis après, une question. Dans le domaine des risques naturels... Parler un peu des feux de forêt dans le Var, ben c'est très facile de savoir s'il y a un risque de feu de forêt à un endroit ou pas. Et quand l'État arrive avec une connaissance, c'est-à-dire de dire la zone elle est potentiellement inflammable, effectivement, on a une levée de bouclier pour nous dire, surtout on ne veut pas le savoir. Et on comprend très bien pourquoi. Il y a un monsieur dont je viens de refuser le permis de construire pour reconstruire sa maison qui a brûlé cet été. Donc lui m'en veut beaucoup, mais c'est parce que on a la connaissance, et c'est la donnée qui a permis effectivement d'avoir une forme d'action publique pour lui dire la maison, non, il faut la reconstruire ailleurs, et on retombe sur les problèmes assurantiels. Donc ça, on le retrouve même sur des choses qui sont beaucoup plus simples, parce que le feu de forêt, on l'apprend beaucoup plus aisément. Ma question, la suivante, c'est par rapport aux enjeux de santé, de territoire, qui est notre thématique, et bien-être. Est-ce que vous avez le sentiment, moi je suis convaincu que oui, mais que cette fabrique de l'ignorance, en fait, elle existe réellement partout. Enfin voilà, finalement la maladie professionnelle, c'est juste un exemple, j'imagine, dans votre démarche. Mais est-ce que vous vous engagez, est-ce que vous avez fait des travaux sur cette fabrication de l'ignorance ou le refus d'études par rapport aux problématiques de qualité de l'air ou de certains polluants, etc., aboutissant à une forme d'inaction des collectivités locales. Je prends l'exemple de Toulon, qui aujourd'hui est en précontentieux européen, comme Marseille et Nice, pour des problématiques de qualité de l'air, insuffisamment prises en compte. Dans le même temps, le maire de Toulon a renoncé à la création d'un tramway. Il y avait des enjeux, qui a toujours d'ailleurs des enjeux fantastiques en termes de qualité de l'air. Donc voilà, et là on se dit, mais ce qui manquerait, c'est l'étude épidémiologique, je ne sais pas. En tout cas, elle existe.
Ah oui, c'est pas
de mort. Non, mais c'est vrai qu'il y a à la fois des mécanismes de production d'ignorance, mais il y a aussi des travaux, notamment il y a eu un ouvrage collectif qui est sorti autour de Powerless Science, cette idée de science impuissante. C'est-à-dire que dans de nombreux cas, on a les données. Par exemple, sur la pollution de l'air dans certaines villes, on a les données, elles sont de plus en plus stabilisées, mais le lien entre l'établissement de connaissances scientifiques et la volonté d'intervenir, le lancement l'engagement de politique publique est important. Et donc, ça renvoie aussi à sur les questions de pollution de l'air, ça renvoie aussi à tous les dispositifs de mesure. Alors là, j'ai pris en effet, c'est un exemple dans lequel on rentre, mais même chose, les dispositifs de mesure de la pollution de l'air, c'est Pierre Lascombe qui a travaillé sur cette question-là avec un doctorant, montrait bien que suivant les types d'instruments que vous utilisez pour mesurer la pollution de l'air, vous orientez pas vers le même type de cause ou vers le même type de politique publique qui sont, que vous allez viser par derrière. Et c'est vrai que ces travaux sur l'ignorance ou le jeu sur la régulation, on le retrouve dans plein de domaines. On le retrouve dans la santé environnementale, je prends l'exemple du glyphosate, mais le scandale du Dieselgate montre bien aussi ce jeu avec ce jeu entre les régulateurs et les régulés, où on a un jeu du chat et de la souris, et même l'acceptation de jeux avec la norme qui sont connus, y compris par les régulateurs, etc. Donc on est dans des... Puis, sauf à certains moments où ça dépasse une borne et où il faut intervenir, mais globalement, le Dieselgate était une façon de... Enfin, ce qui est sorti, cette question de logiciel trompeur, etc., était quelque chose qui était assez connu, déjà interdit, qui avait fait l'objet de réglementation, etc. Donc on est dans des choses qui sont connues dans les milieux spécialistes, mais quand elles émergent dans des espaces publics plus larges, qu'il y a des ONG qui font une enquête un peu indépendante, etc. Et donc, ça peut être saisi par le mouvement social, ça change un peu de nature, le problème se redéfinit et il sort de la sphère financière. Le problème des maladies professionnelles sort de la sphère financière, taux de cotisation qui va passer de 2,4 à 2,6 pour devenir un problème de santé publique. Les questions de pollution sortent du chiffre qui sort dans la presse quotidienne tous les jours pour devenir X milliers de malades liés à la pollution de l'air dans le monde, chez de l'OMS qui était sorti encore il y a une dizaine de jours, etc. Donc c'est vrai que la capacité ou non à attirer l'attention du public sur un problème et donc à redéfinir l'enjeu et à le faire prendre en charge de façon différente joue beaucoup. Et donc, d'où les stratégies très, très actives pour rester justement dans des espaces plus confinés, dans des définitions plus techniques. Est-ce que c'est X microgrammes par centimètre cube de P10 ou P25 qu'il faut, etc. Donc il vaut mieux rester dans ce domaine-là plutôt que d'avoir des chiffres qui soient plus facilement appropriables par des acteurs extérieurs aux acteurs directement en charge.
Les gens ne sont pas du tout. Hein. D'accord.
Oui, Didier Salin, CFDT, secrétaire général de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et aussi du bureau national. Donc en effet, vous parlez en effet d'indemnisation, mais le pendant de tout ça, c'est aussi la prévention. Et je dirais parce qu'on a, et on l'a vu, et en plus, plutôt nous, on était acteurs, on va dire, depuis la réforme des retraites de 2003 pour tenir compte de la pénibilité. On a vu qu'on est arrivé seulement, sous le dernier gouvernement, à la prise en compte du C3P, du compte personnel de pénibilité, qui s'est finalement, sous la pression, plutôt du patronat, se transformer en C2P, on a enlevé le côté, on va dire, personnel. Cette grande difficulté de prendre en compte, puisque pour nous, le plus simple, ce sera en effet que les salariés ne soient plus indemnisés, qu'on ait pris en compte dans la pénibilité et qu'on ait, améliorer les conditions de travail. Donc c'était de voir un petit peu le positionnement par rapport à ça. Puis sur le temps long, on l'a vu, quand il y a des études et on sait très bien que le temps est la pression. Je prendrai deux exemples de ma région en ce moment. Dans le métro de Marseille, la reconnaissance des équipes syndicales pour la qualité de l'air, donc des salariés qui travaillent dans le métro de Marseille, c'est une longue sinécure dans les fameux mouvements à la CARSAT, dans les CTR, pour la prise en compte, c'est un travail de reconnaissance qui est très très long. le deuxième qui va sortir, mais qui est un vrai débat là aussi, en ce moment, on est en train de constituer un groupe de réflexion sur ce sujet-là. C'est par exemple sur les bassins de Fos-sur-Mer. Il y a eu une étude épidémiologique, comme voilà, vous disiez, où en gros, pour faire ça très schématisé, vivre et travailler à Fos-sur-Mer, on a deux fois plus de chances de décéder, surtout si on cultive son jardin, avec toute la pétrochimie, enfin voilà, qu'il y a, et Arcelor à côté. Donc c'est comment voilà, on prend en compte, ces études sont là, la reconnaissance, parce que derrière, pour aussi se le dire, syndicalement, on n'est pas forcément tous sur la même ligne, je dirais. Il y a ceux qui sont, il faut défendre l'emploi et que l'emploi, peu importe comment c'est fait, et ceux qui, un peu comme nous, qui essayent de prendre en compte toutes les composantes. Et en effet, il y a aussi, voilà, de prendre en compte aussi la situation des riverains, et pas uniquement, et de ceux qui vivent.
Alors sur la question de la prévention, c'est sûr que oui, l'idéal serait qu'il y ait moins d'exposition à des produits toxiques, etc. Donc sur le fond, je suis d'accord avec vous. Il n'empêche que je pense que le dispositif tel qu'il existe français d'encadrement du risque professionnel est quand même fondamentalement repose sur une logique de réparation. Alors, on a rajouté des logiques de prévention a posteriori, notamment. Alors, pour des raisons plus ambiguës, parce que la grande loi de 76 qui modifie justement le dispositif de réparation des maladies, enfin du risque professionnel, en faisant entrer la logique de prévention, elle intervient quand juste après la mobilisation de juges qui avaient incarcéré les chefs d'entreprise, etc. Donc on est aussi dans des moments où on voit bien que et ça, je pense, c'est une façon de confirmer ce que vous dites, c'est-à-dire que moi j'ai pas l'impression, enfin que le temps joue. Oui et non, c'est-à-dire moi je pense que le facteur fondamental au final de plus en plus c'est vraiment l'action collective et les mobilisations. Et dans la mesure où elles s'appuieront sur des connaissances scientifiques, ça sera facilité, mais s'il n'y a pas derrière un mouvement social, des mobilisations qui attirent l'attention sur des données, qui disent avec ces données-là on ne peut pas se permettre de continuer à fonctionner pareil, je pense que s'il n'y a pas une mobilisation derrière, la connexion connaissance action publique se fait moins. Puis après, sur l'exemple que vous prenez sur Fos-sur-Mer, en effet on est vraiment là dans la production de lutte contre les gens. C'est-à-dire que cette étude épidémiologique, en fait, c'est pas l'ARS de la région qui a mené ça. En fait. C'est une sociologue nord-américaine qui travaillait avant sur la Louisiane, sur la région de Venise, et qui s'est dit, mais continuons la comparaison et engageons une étude épidémiologique pour essayer de mesurer justement dans la population les effets de la pollution. Donc un truc que personne, un type d'étude épidémiologique que personne, à ma connaissance en tout cas, avait lancé en France avant que Barbara Allen lance ce projet sur Fos-sur-Mer. Et je pense que là on voit bien que on produit les connaissances qu'on a envie, en fonction des objectifs politiques qu'on se donne. C'est-à-dire que on voit bien que la connaissance scientifique, dans de nombreux cas, elle est indexée soit à des intérêts économiques qu'on veut développer, soit à une politique publique qu'on veut mener. Et le fait que cette étude-là elle soit venue justement importée par cette sociologue nord-américaine qui est arrivée avec ce dispositif-là, etc., c'est quand même assez révélateur de, à l'inverse, la non-volonté justement de mesurer les effets de la pollution sur la population générale dans une zone qui est pourtant, dont on sait que c'est partie des 4-5 grandes zones très polluées en France.
Oui, bonjour. Chris Danarajou, je travaille à Porte de Paris. Je m'interrogeais sur comment est-ce qu'aujourd'hui vous analysez les différences abyssales entre les valeurs limites d'exposition professionnelle et même les données qui sont publiées par le ministère de la Santé. Je prends le cas par exemple de l'exposition au formaldéhyde. Je crois que le ministère de la Santé dit qu'au-delà de 30 ou 50 microgrammes, ça devient toxique. Et les valeurs limites d'exposition professionnelle sont quasiment 100 fois plus importantes, quoi. Donc, Donc, comment est-ce que on peut expliquer une telle différence finalement de communication dans ce qui est impactant et ce qui ne l'est pas, quoi, en fait.
Alors, il y a plusieurs réponses. La grosse réponse, si vous demandez ça à un membre du ministère du Travail, vous dire, la réponse officielle, c'est les populations de travailleurs sont suivies par le ministère du Travail. Ne comportent pas d'enfants, de vieillards, etc. Ne sont exposés que 8 heures par semaine, 40 semaines par an, etc. Donc ça permet d'avoir des valeurs limites plus élevées pour les populations professionnelles que pour la population générale, où vous avez des personnes malades, etc. Donc discours officiel, c'est sûr. En pratique, ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs séries de réponses. Première série de réponses, c'est que c'est deux mondes complètement différents. Moi, pour avoir siégé au Conseil de santé publique sur la commission des risques liés à l'environnement, on se rend compte que les spécialistes, les experts qui travaillent sur les expositions environnementales et ceux qui travaillent sur le monde du travail sont deux communautés complètement différentes. Donc, ils ont des logiques de fonctionnement qui sont pas du tout les mêmes. Donc, ils fonctionnent avec des valeurs limites qui sont pas du tout produites dans les mêmes logiques scientifiques et experts. Donc, avec des conséquences, en effet, qui sont, vous l'avez dit, des rapports de 1 à 1000, de 1 à 10 000, de 1 à 100 000, parfois entre des valeurs limites population générale et des valeurs limites de travailleurs. Mais je pense que ça a commencé à changer justement avec la crise de l'amiante, etc., où il y a eu quand même, où petit à petit, je pense, les questions de santé au travail sont de plus en plus définies comme des questions de santé publique et donc intéressent de plus en plus les fonctionnaires du ministère de l'Environnement, d'un certain nombre d'autres ministères qui se sentent concernés autour de ces enjeux. Donc petit à petit, il y a de la porosité, notamment moi quand j'étais au Conseil de santé publique, on essayait avec un certain nombre d'experts de faire se rencontrer les deux, ne serait-ce que pour voir la contradiction entre les valeurs qu'on développe dans le monde de la santé environnementale et ceux qu'on développe dans le monde de la santé au travail. Un autre effet, c'est que les valeurs limites d'exposition professionnelle, tout comme les valeurs limites d'exposition aux toxiques environnementaux, elles baissent progressivement quand même au fur et à mesure où on a de plus en plus de... Donc on a des trends quand on analyse en long terme les valeurs limites d'exposition professionnelle ou les valeurs limites liées aux risques environnementaux, on a quand même des trends de baisse régulière des valeurs limites. Et ce qui se passe dans le domaine de la santé au travail, c'est que ces valeurs limites sont très vieilles. Souvent, elles sont mises en place de façon très irrégulière. Donc il y a beaucoup de valeurs limites d'exposition professionnelle qui datent des années 80-90, donc qui sont constituées avec des données qui correspondent pas du tout à l'état des connaissances aujourd'hui. Mais il y a une telle inertie du dispositif que si on pointe les valeurs limites, alors il y a eu des politiques publiques menées sur certaines valeurs limites d'exposition, mais sur les centaines qui sont aujourd'hui en France, beaucoup datent des années 70-80, et ça veut dire que c'est une étude avec 6 singes menés dans les années 70 en Inde. On est dans des études toxicologiques qui sont parfois un niveau de preuve très, très faible.
D'autres questions? Vous avez faim?
Il y a une question qui va permettre de faire le lien avec cet après-midi. Autour de la question de la santé au travail, on a cru comprendre que la prise en charge de ces questions était assumée de manière beaucoup plus sérieuse en Suède. Est-ce que vous pourriez en quelques mots expliciter les différences d'approche globales entre la France et la Suède, si vous connaissez ce système?
Je ne peux pas rentrer complètement dans le détail, mais je pense que c'est vrai qu'il y a une tradition... Il y a une tradition de recherche en santé publique déjà qui est quand même beaucoup plus développée en Angleterre, en France, au Royaume-Uni et dans les pays scandinaves. Donc il y a une attention par exemple aux inégalités sociales de santé et aux expositions professionnelles qui est quand même plus scientifiquement beaucoup plus développée. Je regardais là, c'est hier qu'a été nommée la nouvelle directrice du CIRC, du Centre international de recherche en cancer. Elle vient du Karolinska Institute qui est vraiment un des grands instituts de recherche dans le domaine des risques professionnels. Donc il y a quand même une vraie tradition avec des experts qui apportent des données à la fois toxicologiques et épidémiologiques sur ces questions. Mais je pense fondamentalement, il y a quand même une... Alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est une hypocrisie en France. C'est-à-dire, on le voit bien, il y a une incapacité en France à assumer publiquement le fait que les politiques de santé au travail génèrent des risques. Et on voyait bien, par exemple, au moment du scandale de l'amiante, aucun ministre du Travail a dit ben, « Oui, on sait que dans le domaine de l'amiante, il y a des niveaux de risque importants et c'est pour ça qu'on a des dispositifs d'indemnisation spécifiques. » Donc, quand vous lisez les documents, les bilans des conditions de travail annuelles, on est toujours dans un discours où, officiellement, on n'assume pas que les politiques de gestion des risques professionnels génèrent des risques et génèrent des niveaux de risque assez importants dans les populations professionnelles. Alors que ce risque-là est beaucoup plus assumé, c'est-à-dire qu'on assume, on explicite qu'on est sur des risques à 1 pour 10 000 ou 1 pour 100 000 dans le domaine professionnel, alors qu'on est plutôt à 1 pour 1 million dans le domaine de santé environnementale. Quoi. Donc il y a des niveaux de risque et une politique de gestion des risques qui est beaucoup plus assumée publiquement dans les pays scandinaves, mais aussi au Royaume-Uni aussi de façon plus explicite. Alors qu'en France, vous ne trouverez pas cette notion, par exemple, de risque négocié, risque acceptable, risque accepté. On est dans une hypocrisie. Et d'où, par exemple, les valeurs limites d'exposition professionnelle, elles n'ont jamais pu entrer en France parce que mettre une valeur limite d'exposition professionnelle pour un cancérogène, c'est accepter que vous allez générer un niveau de risque qui existe dans une population. Et ça, assumer ça publiquement pour le ministère du Travail, c'est quelque chose qui est impossible. Alors, on voit bien que c'est un peu une langue de bois. Officiellement, en pratique, tous les chargés de mission, les chefs de bureau, les directeurs, sous-directeurs le savent en pratique, mais c'est un discours qu'on ne peut pas avoir publiquement. D'où le glissement. Dès qu'on focalise l'attention sur la gestion des risques professionnels en France, ben, on renvoie plutôt, on fait un scandale, on sort, etc. On sort le problème de cette façon traditionnelle d'aborder les risques professionnels parce qu'on ne peut pas on ne peut pas assumer ça publiquement et mettre en débat public le fait que, en effet, l'industrie chimique génère des maladies, le nucléaire, notamment avec les intermittents, etc., génère un nombre de leucémies qui n'est pas négligeable, etc. Mais ça, c'est un discours qui est impossible à assumer pour le ministère du Travail, alors que savoir qu'on a des arbitrages qui ne sont pas les mêmes dans le domaine environnemental et dans le domaine du travail est quelque chose qui s'affaire. Alors, je ne sais pas quelle forme ça prend exactement, mais voilà, le 1 pour 10 000 versus 1 pour 1 million, c'est quelque chose qui existe et qui est relativement assumé en Scandinavie et dans d'autres pays. En Suisse aussi, en Allemagne.
Je pense que ça donne lieu à la reconnaissance de beaucoup plus de maladies
professionnelles. Alors, ils ont... Oui, je pense qu'ils ont, alors ça j'ai pas les chiffres précis, mais ils ont un meilleur taux de reconnaissance des maladies professionnelles, plus que nous. Okay.
Juste la dernière question. Moi je suis assez d'accord avec vous sur l'hypocrisie, puisque dans les établissements, en revanche, où je travaille dans un hôpital, on a énormément par contre de restrictions. C'est-à-dire que les personnels qui souffrent de TMS vont à la santé au travail et ces personnels ont des restrictions de travail, c'est-à-dire les aides-soignantes par exemple qui ne peuvent plus lever le malade, qui ne peuvent plus rester debout tant de temps, etc. Et ce qui entraîne dans les établissements de santé des grosses difficultés. Donc en fait, le curseur il va vers l'établissement de santé ou autre entreprise, j'imagine.
Non, c'est sûr qu'il y a des... Donc ça, c'est plus le travail du médecin du travail qui va... Enfin, pas le médecin du travail, mais les services... Médecins du travail qui vont accompagner ça... Non, mais parce que dans les systèmes hospitaliers, il y a des médecins du travail aussi.
Oui.
Ils ont le même statut, ok.
Comment ? C'est très important dans un établissement. Les services de santé au travail, ça crée vraiment des soucis à juste titre, parce qu'il y a des vrais problèmes, mais... Le personnel continue à travailler dans le service, mais en étant à 20 ou 30% de ce qu'il doit faire. Donc, enfin, donc il y a des remplacements, enfin, oui, au niveau des effectifs.
Oui, parce que aussi en amont, c'est vrai qu'en amont, les conditions. Enfin, ça se mord un peu la queue. C'est-à-dire que aussi on génère plus de TMS parce qu'il y a une pression de plus en plus importante sur les travailleurs, etc. Donc c'est vrai qu'après, évidemment, quand on met plus de pression sur les travailleurs, ils sont plus atteints dans leur corps et donc ils sont moins efficaces dans le temps. Donc c'est vrai qu'on est quand même dans une logique, je pense, de quasi jetabilité. J'exagère un peu, mais quasi jetabilité du travail. C'est-à-dire qu'on pousse quand même au maximum les choses. On voit dans l'industrie de la viande, par exemple, c'est un autre secteur, mais où c'est vrai que les ouvriers sont détruits au bout de quelques mois, dans le meilleur des cas, quelques années de travail. Mais c'est vraiment, il y a des telles cadences qui sont imposées que physiquement, les corps ne peuvent pas tenir.
Je voudrais juste donner un exemple que vous avez peut-être tout entendu, c'est quand même on voit que c'est des problématiques extrêmement complexes. La question des cantines sans plastique, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est typiquement bordelais, c'est-à-dire que dans les cantines, mais non, c'est pas typiquement bordelais, je pense que c'est partout. Dans les cantines, alors là, ça va être toutes les collectivités territoriales, puisque ça va être les écoles, les collèges et les lycées. Les personnels des cantines, qui dépendent donc des collectivités territoriales, doivent tous les jours nettoyer les cantines, mettre les chaises sur les tables, porter les assiettes, etc. Donc il y a un nombre de TMS ahurissant, surtout que c'est un personnel qui est assez âgé. Donc la ville de Bordeaux a dit, bon, pour résoudre ces problèmes, on va faire un truc simple, c'est que déjà on va essayer de résoudre le problème de la vaisselle, et on va enlever toutes ces bonnes assiettes, toutes ces vieilles assiettes hyper lourdes en porcelaine, et on va les remplacer par des assiettes en plastique. Le lendemain, ça n'a pas fait un pli. Tous les parents se sont mis à hurler, et ils avaient raison, en disant « Vous allez quand même faire bouffer nos enfants dans du plastique, surtout que ça allait faire réchauffer les plats, donc perturbateur endocrinien. » Mais ils ont raison, en plus. Donc, et nous, on a eu la même question au conseil régional, où la personne qui s'occupe des lycées me dit « Ah oui, on a trop de problèmes de PMS, on a eu ça avec le médecin du travail, on va mettre des assiettes en plastique. » Je dis « Mais t'es foutre !» Et alors, comment on fait? D'autant plus que quand on construit des nouveaux lycées actuellement, on a complètement... les architectes n'ont absolument pas pris en compte cette question du risque de TMS pour les personnels, c'est-à-dire que, tout simplement, les chaînes de lavage des assiettes, et bien, au lieu de monter légèrement et de pouvoir amener directement les assiettes dans les étagères roulantes qui permettent de les amener sans les porter, ben non, elles baissent. C'est-à-dire que c'est absolument pas rentré, cette question de la prévention des TMS pour les risques professionnels, n'est pas, voilà, ça ne fait pas le tour de la chaîne.